$3 par jour s'appliquera ou ne s'appliquera pas. Comme au football, les patrons des entreprises gardent le ballon en main tandis que les travailleurs s'impatientent et s'énervent. Certains ont marché à Kinshasa cette semaine. Le gouvernement arbitre attend une commission. C'est le dossier de Philippe Kazadi à suivre dans 5 minutes. Payer sa bague ou sa robe de mariée par Internet. Le commerce électronique prend petit à petit forme en RDC. Reportage de Jocelyne Moussaoukonde à suivre dans une quinzaine de minutes. Et Moto Gold Mine produira de l'or en Ituri dans 3 ans. Alfred Lunga, le chef de projet métallurgique de l'entreprise, sera l'homme économique de la semaine. Bienvenue à tous.
Les infos économiques de la semaine.
Commençons ces nouvelles par la grève qui secoue la Société nationale de chemin de fer du Congo. Depuis le début de la semaine, des très timides reprises ont été constatées ce vendredi, mais l'abcès n'est pas crevé. Les agents revendiquent 3 mois d'arriéré de salaire, mais le mouvement a tout de suite gagné plusieurs secteurs de la société, tels que Kamina, Louena et Kalemi. À la direction de l'entreprise, on estime qu'il y a baisse des recettes suite à la crise économique en cours qui frappe également les miniers de la province. Selon l'administrateur délégué général adjoint de la SNCC, au moins 30% des recettes viennent du transport des minerais de forest, de la Gécamine ou des autres opérateurs. Comment alors combler le trou? Il faut réaffecter les wagons vers le trafic à l'intérieur du pays. Écoutez la DGA Norbert Lubanda au micro de Nelly Kabena.
Nous allons nous concentrer essentiellement sur le cargo général, le cargo intérieur. C'est essentiellement au regard du trafic ex-ouest, c'est-à-dire les produits manufacturés ex-Kinshasa qui transitent par Ilebo pour le Grand Kasaï, et le trafic ex-est, le produit ex-Kalemie que nous allons devoir acheminer vers Kindu, vers le Kasaï et vers le Katanga. Une stratégie que nous mettons en place également, les produits agricoles qui en fait font également partie du cargo intérieur. Alors ça, nous allons devoir nous concentrer là-dessus, nous allons réaffecter nos moyens, notamment les locomotives et le wagon, et nous allons le réaffecter et concentrer notre activité sur ces produits intérieurs.
Restons au Katanga pour dire que les 32 ans de la Gécamine ont été célébrés sans tambour. Les mangeurs de cuivre sont restés à la maison. Le premier vendredi de février rappelle le passage de l'union minière du Haut-Katanga à la Gécamine. Et la Gécamine sûrement qui empochera le pas de porte des Africo Resources. Le junior canadien lui versera 6,5 millions de dollars en 4 ans, soit 1,6 million de dollars par an. C'est ce qu'il a annoncé en milieu de semaine. Africo Resources dit avoir trouvé un accord avec la Gécamine et le gouvernement congolais dans le cadre de la révisitation des contrats miniers. Notez que l'entreprise canadienne est en partenariat avec la Gécamine pour l'exploitation du cuivre et du cobalt de la mine de Kalukundi située à une vingtaine de kilomètres de Fungurume dans le Katanga. Et 5 chantiers, à quoi est dû les retards dans l'exécution de ce projet infrastructure? Le président de la République a répondu à cette question le week-end dernier. Joseph Kabila justifie le retard par les négociations avec les partenaires chinois qui ont pris du temps. Il fallait avant tout la planification, puis la mobilisation des moyens et enfin l'étape actuelle qui est le déploiement de ces moyens sur terrain. C'est René Kapita qui représentait Radio Kapi à cette conférence.
650 millions de dollars seront décaissés pour cette année, 1 milliard pour 2010, 500 millions pour 2011 et 750 millions pour 2012, soit un total de 3 milliards de dollars américains pour 4 ans seront décaissés pour la réalisation des travaux de 5 chantiers, a annoncé le président Kabila. La RDC pourra-t-elle continuer à financer ces travaux face à la baisse du cours mondial des minerais due à la crise financière mondiale? Joseph Kabila reste confiant. Environ 3 000 dollars la tonne, le cuivre à côté d'autres minerais peut encore financer ces travaux. Par ailleurs, si crainte il y a, le chef de l'État estime que c'est la poursuite de cette tendance à la baisse du cours des minerais qu'il faut craindre. Aussi a-t-il souligné la nécessité de diversifier les ressources, notamment avec la relance et la mécanisation de l'agriculture. Le chef de l'État a annoncé à cette occasion l'arrivée d'un premier lot de 700 tracteurs destinés à cette fin.
Le dossier de la semaine.
Certains employés des petites et moyennes entreprises de Kinshasa étaient en colère cette semaine. Ils ont manifesté à travers le centre-ville de la capitale. Leur désarroi est parti du moratoire déposé la semaine passée par le patronat congolais auprès du gouvernement. Situation tellement tendue que certains employeurs, dont les Chinois, ont cherché même à se cacher dans leurs ambassades pour en parler. Philippe Casadier est avec moi dans ses studios. Bonjour Philippe.
Bonjour Georges, bonjour à tous.
Alors, le nœud du problème, c'est bien le SMIG.
Oui, Georges, le nœud du problème, c'est bien le salaire minimal interprofessionnel garanti, le SMIG, en son deuxième palier. Certaines entreprises ont déjà appliqué le premier palier, soit 2 dollars par jour pour le plus bas des travailleurs. Actuellement, les employeurs demandent au gouvernement de remettre à plus tard l'exécution du deuxième palier. Celui-ci prévoit un salaire minimal de 3 dollars américains par jour pour le huissier. C'est cette demande du patronat qui a énervé certains travailleurs.
Et le climat n'est pas très bon entre les travailleurs et les employeurs maintenant.
Les travailleurs, quoique discrets, ne jurent que sur le respect des accords signés l'année dernière au Conseil national du travail entre les banques patronales, le gouvernement et les syndicats. Écoutez l'un des travailleurs qui s'est confié à notre micro, mais sous anonymat.
Nous regrettons la façon à laquelle la FEC est en train de mener des démarches auprès du gouvernement. Parce que la FEC, avant qu'on puisse signer ce décret-loi appliquant les 3 dollars, la FEC qui était aussi partie prenante de cette négociation. Et on a réparti ça convenablement à deux paliers. Pourquoi la FEC, partie prenante de cette négociation, doit avoir encore le courage d'aller auprès du gouvernement pour renégocier encore? C'est ce que nous disons, non, ça ne peut pas se faire.
Alors, je prends juste la question du travailleur que nous venons d'écouter. Pourquoi le patronat veut retarder le paiement de 3 dollars?
Eh bien, le responsable d'entreprise avance comme raison la crise financière et économique internationale qui frappe de plein fouet les entreprises à travers le monde sans excuser les leurs. Dans ce contexte de crise, les entreprises sont dans les capacités de payer le SMIG. Et si la demande du moratoire n'est pas approuvée du gouvernement, elles y voient le risque de licenciement des travailleurs, soit la fermeture de portes de leurs entreprises. C'est comme l'indique Dodo Balou, président de la Compemeco, la coopérative des petites et moyennes entreprises du Congo.
Aujourd'hui, toutes les entreprises appliquées 3 dollars le deuxième palier, eh bien, nous ne tiendrons pas compte. Les entreprises seront obligées de fermer. C'est ce que nous avons demandé un moratoire, et je crois que nous sommes en cours déjà, le temps de trouver comment appliquer. Nous allons revoir cas par cas. Il y a des entreprises, par exemple, ceux qui sont intéressés, les agro-patrons, vous savez bien, les supervisions, aujourd'hui, atteindre déjà le premier palier. Pour l'instant, nous sommes en train de préparer déjà un programme où nous allons d'abord complètement vider le premier palier, et je crois que tout doit se faire avant fin mai, et nous verrons maintenant comment appliquer le deuxième.
C'est Dodo Balou de la Copenhague qui parle d'un programme. Il parle du mois de mai. Mais que disent les représentants des travailleurs, Philippe?
Les représentants des travailleurs également, comme les travailleurs eux-mêmes, s'en tiennent aux accords signés l'année dernière au Conseil national du travail. Ces accords envisagent l'amélioration du niveau de vie des travailleurs par l'augmentation de leur enveloppe salariale. La Confédération syndicale du Congo s'est dit surprise de la demande du banc patronal qui sollicite un moratoire pour remettre à plus tard l'application du deuxième palier du SMIC. Selon la CS, il n'est pas question que le patronat fasse des lobbying auprès du gouvernement pour changer les choses.
La Confédération syndicale du Congo.
Tout à fait. Symphorien Dunia, président de cette confédération, suggère plutôt que les employeurs bénéficient des allègements fiscaux.
Nous avons décidé que l'État doit faire d'urgence pour prendre des mesures dérogatoires relatives aux allègements fiscaux pour les entreprises du secteur agro-pastoral et agro-industriel. Et cela va profiter aux employeurs et laisser libre ces droits inaliénables qui consistent à l'application du SMIC institué par l'agence présidentielle. Nous pouvons accepter qu'ils aient un allègement. Mais cet allègement, il n'aura pas du côté travailleur. Le SMIC, d'abord, il est donné en francs congolais. Les 3 dollars équivalent à 1680 francs congolais par jour. Aujourd'hui, les 3 dollars valent 2160 francs congolais. C'est vous dire que le travailleur a perdu son pouvoir d'achat d'au moins 20%. Aujourd'hui, les 3 dollars pour le travailleur équivalent à plus ou moins 2,3 dollars par jour. Et donc, c'est l'employeur qui a bénéficié de la fameuse de prix. Cet employeur ne peut pas prétendre qu'il a perdu ou qu'il va perdre, étant donné que la situation monétaire, la fameuse de prix, lui profite. Et donc, cet aspect des choses financières ne permet pas à l'employeur de prétexter qu'il a perdu et de conséquemment, il doit avoir un moratoire pour l'application du deuxième palier de SMIC.
Ah, là, ce sont les syndicats de travailleurs qui campent sur leur position. On écoute également les représentants des travailleurs figés dans leur coin. Concrètement, rien ne bouge, Philippe.
Tout à fait. Des réunions se poursuivaient encore cette semaine, mais aucune issue n'est jusqu'alors connue. Mais il y a un autre acteur dans ces jeux, c'est le gouvernement.
Qu'est-ce dit le gouvernement?
La première réponse du gouvernement est jusqu'alors connue. Selon le ministre du Travail et de la Province sociale, Ferdinand Mumbere Kalumbi, qui intervenait dans Okapiation, le moratoire n'a pas été reçu. Il invite en effet l'État à rendre effectifs les allègements fiscaux tels que sollicités par les employeurs et à faire fonctionner la commission tripartite chargée de suivre l'évolution du SMIC. Cette commission qui est habilitée à résoudre ces types de conflits. Écoutez les ministres du Travail et de la Province sociale, Ferdinand Mumbere.
L'État a promis plutôt d'agir de son côté du point de vue, faire fonctionner la commission et aussi rendre effectif tous les allègements fiscaux tels que sollicités dans les codes, parce que c'est dans le code du travail et c'est dans l'ordonnance qui accorde le fisc. Donc cette contrepartie-là, l'État doit pouvoir l'assurer. Du coup, tout ce que nous plaidons et tout ce que nous continuons à vulgariser, c'est qu'on mette en application le code, que les entrepreneurs et que les travailleurs aussi de leur côté s'organisent. Il y a déjà plusieurs syndicats, ils sont là pour aider, pour encadrer les travailleurs dans les entreprises. De manière à ce que, de commun accord avec les employeurs, ils puissent organiser des syndicats.
Et la commission dont parle le ministre, elle fonctionne déjà?
Elle ne fonctionne pas encore. C'est ce que nous a confié le ministre Ferdinand Mumbere. C'est aux trois parties d'y penser maintenant, c'est-à-dire le gouvernement, l'employeur et l'employé.
Merci Philippe pour toutes ces précisions. C'est à suivre. Et Écho d'économie entre tout de suite dans sa seconde partie.
Les affaires économiques en Afrique et dans le monde.
Le sommet de l'Union africaine s'est alarmé mardi au dernier jour de ses travaux des répercussions humaines et sociales de la crise économique mondiale sur le continent le plus pauvre de la planète. La prochaine décennie sera probablement très sombre pour l'Afrique à cause de la tourmente économique en cours et du réchauffement climatique, a déclaré le premier ministre éthiopien Meles Zenawi, dont le pays est l'un des principaux bénéficiaires de l'aide internationale au développement. Il a invité ses pairs à agir et à agir vite. Crise économique mondiale, grogne sociale et chômage, tout est réuni pour créer un parti anticapitaliste. C'est ce que vient de faire le français Olivier Besancenot. Le leader de gauche, âgé de 34 ans, a lancé ce vendredi le nouveau parti anticapitaliste. Cette formation, issue de la mouvance trotskiste française, voit le jour dans un contexte de crise et de rejet du libéralisme qui pourrait lui être favorable. Et la Chine, elle, s'estime capable de faire face à la crise. Le premier ministre chinois Wen Jiabao a déclaré dans le Financial Times que sur base d'une attitude scientifique et d'une perspective pragmatique, il est sûr que la Chine atténuera l'impact de la crise économique mondiale. En outre, Wen Jiabao a affirmé que la Chine est confiante en raison de la bonne santé et de la stabilité de son marché financier, son vaste potentiel de marché et une marge de manœuvre pour aborder la crise. Et des conseillers économiques indépendants pour Barack Obama, le président américain se donne cette équipe pour avoir un point de vue indépendant sur la manière de sortir son pays de la crise, a indiqué un responsable de la Maison Blanche cité par Romandie News. Cette équipe qui sera dirigée par l'ancien président de la Réserve fédérale, Paul Volcker, 81 ans, se réunira de manière régulière avec Sebuti et avec le vice-président Joe Biden, a indiqué le responsable sous couvert de l'anonymat. Et sur le marché des matières premières, le cuivre gagne 200 dollars au cours de la semaine, passant ainsi de 3150 à 3350 dollars la tonne. L'étain stagne à 11 200 dollars la tonne et après un bond de 20 dollars mercredi, le zinc lui termine la semaine en chute à 1140 la tonne.
Le reportage de la semaine.
Vous suivez Côte Économie sur Radio Capi, achetez du parfum, des livres ou encore de la margarine ou même des boîtes de chocolat. Payez tout cela sans sortir de sa chambre ou de son bureau, c'est possible grâce à Internet. Ce marché électronique commence à être une réalité en RDC. C'est le reportage de Jocelyne Moussaou-Pondé.
Ces bruits, c'est les bruits d'un clavier et d'une souris d'ordinateur. Devant sa machine, Guy effectue des achats sur Internet.
Je suis en train de faire des achats sur Internet. Ça me permet de faire des achats sans me déplacer. C'est vraiment facile et adapté à mes besoins.
Guy n'est pas le seul à faire son shopping sur Internet. Aujourd'hui, cet outil permet de régler plusieurs transactions. La RDC, citoyenne du monde, emboîte aussi le pas. Il existe au Congo des sites Internet ou des portails d'affaires qui facilitent les ventes et les achats. Cette pratique est appelée commerce électronique. Zando.cd en est une illustration. Valérie Kabamba, directrice commerciale à Zando.cd.
Zando.cd est un portail, on relaye des affaires. En d'autres termes, on dirait que c'est un marché où tout est possible d'être acheté et tout est possible d'être vendu. Nous avons la partie annuaire, la partie job, nous avons la partie automobile, immobilière, la partie shopping qui sera incessamment mis en ligne.
Comment cela marche?
Vous voulez acheter une maison, vous allez dans la rubrique immobilière. Il y a plusieurs types de maisons. Vous faites un choix. Vous avez la possibilité, à partir de votre ordinateur, de faire une visite guidée de la maison. Donc, d'aller au salon, d'aller dans la cuisine, voir la véranda, à quoi ça ressemble, l'extérieur et tout ça, visiter les pièces de la maison. Et si cela vous intéresse, vous pouvez prendre les coordonnées du bailleur ou du propriétaire de la maison et le contacter directement.
Acheter sur Internet présente des avantages. Ici, on a la possibilité de trouver plusieurs produits à la fois et de comparer. Internet donne aussi la possibilité de payer de plusieurs manières, à la livraison ou lors de la commande par carte bancaire. Enfin, dans le commerce électronique, vous faites vos achats sans vous déplacer d'un coin à un autre, d'une ville à une autre, sans prendre de moyens de transport ou d'aller dans la foule. Mais il existe tout de même quelques inconvénients mineurs dans le commerce électronique. Il faut attendre la livraison du produit et cela se fait moyennant un petit montant qui inclut les frais de transport, les taxes et la commission du portail ou du site qui facilite le commerce. Sur Internet, on ne peut pas toucher, manipuler le produit avant de l'acheter et en cas de non-satisfaction, il faut généralement le renvoyer au site pour échange. Mais finalement, avec moins d'inconvénients et plus d'avantages, on se le permet. Et donc, à vos souris et bon shopping.
Merci Jocelyne Moussaou-Pondé. Matière première aujourd'hui, la production de maïs en RDC qui est en baisse selon le Service national des statistiques agricoles. L'année dernière, elle était évaluée à 1 180 000 tonnes. Cette production est inférieure à celle réalisée il y a une décennie. Entre-temps, la demande de maïs est forte à l'intérieur du pays et de surcroît, le gouvernement congolais et les opérateurs économiques peuvent saisir la balle au bon pendant cette période de la crise alimentaire pour produire et exporter le maïs en vue d'encaisser des devises pour la relance de l'économie nationale. C'est la chronique matière première que nous propose Askin Zigatairo.
Au ministère de l'Agriculture, on estime que les conditions climatiques sont favorables dans toutes les provinces de la RDC pour produire le maïs. Le Katanga est en tête de production du céréal au Congo. Elle a produit en 2007 240 000 tonnes. En deux vient le Kasaï oriental avec 195 000 tonnes. Il est suivi de l'Équateur qui réalise une production annuelle de 138 000 tonnes. pour le Service national des statistiques agricoles, la performance réalisée dans la production de maïs par toutes ces provinces est de moins d'un pour cent par rapport à 2001. Pour certains experts au secrétariat général de l'agriculture, le manque d'encadrement des agriculteurs, des semences améliorées, l'absence d'une agriculture mécanisée sont des facteurs qui font défaut dans l'accroissement de la production de maïs en RDC. L'expérience de FAO a démontré que 25 kg de semences de maïs cultivées sur une étendue d'un hectare par ménage produisaient plus ou moins 2 tonnes de maïs. Et si 30 millions de ménages qui constituent la moitié de la population congolaise le font autant, la RDC pourra réaliser en une saison 60 millions de tonnes de maïs, ce qui pourrait aider le pays à exporter et gagner des devises pour subvenir aux besoins nationaux.
Vos avis et suggestions nous intéressent. Écrivez-nous à echo@radiocapi.net.
Osimo Borgakim, c'est l'un des contrats miniers qui avait fait grand bruit. Le grand point de discorde était les défaillances dans l'assistance technique et financière. Borgakim devait, entre autres, aider Okimo à avoir une unité de traitement métallurgique. Eh ben, le mariage n'est pas consommé, ce contrat a été renégocié, les deux entreprises se retrouvent également dans une joint venture dénommée Motogold Mine. Nous en parlons avec Alfred Lunga. Vous êtes directeur de projet métallurgique à Motogold Mine. Alfred Lunga, dites-nous, quel jour Motogold Mine produira son or?
Oui, nous sommes contents que le processus de renégociation est arrivé à la fin. Le gouvernement congolais a approuvé tous les contrats que Borgakim a signé avec Okimo. Comme on a eu le feu vert du gouvernement, il faudra compter pratiquement 3 ans pour qu'il y ait le premier lingot d'or.
Mais est-ce que il y aura la construction d'une unité de production dans le périmètre même de l'Okimo?
Oui, en fait, il y aura pratiquement 2 usines. Ce qu'on appelle la joint venture Okimo Borgakim va construire, c'est la grande usine qui va prendre 3 ans.
Qui sera située où?
À Doko, dans le territoire de Ouacha, à la province orientale. Ça sera la grande usine. Mais avant cela, pour Okimo, d'ici 6 mois, il y aura une unité de production qui pourra permettre au Kimo de produire. Et nous pensons aussi que d'ici plutôt plus 2 ans, il y aura une deuxième usine que Borgakim va financer pour au Kimo. Donc d'ici là, il y aura 3 unités de production qui vont venir.
Alors, quelle quantité d'or produiront toutes ces 3 usines?
Ok, d'après l'étude de faisabilité, la grande usine qui sera disponible dans 3 ans pourra produire en fait 1300 kg d'or par mois. La deuxième usine, nous n'avons pas encore commencé les études, mais c'est une situation que vous me posez peut-être d'ici 6 mois, je pourrais vous répondre. Mais ce qui est vrai, le traitement des minéraux sera trop élevé par rapport à ce qu'il nous fait maintenant. Pour l'unité modulaire, les études ont prouvé qu'il y a une réserve de 750 kg que nous devons chercher à consommer dans 2 ans. Donc d'ici là, on pourra commencer à produire quelque chose pour Okimo qui sera consommé dans 2 ans.
Ouais. Il n'y aura pas de rupture en chemin?
Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas qu'il y aura de rupture. Et nous avons signé ce contrat avec Okimo. Nous sommes en phase d'exécution. Donc, nous ne pensons pas qu'il y aura de rupture. Nous pensons seulement qu'il faudra que la situation sécuritaire se stabilise. Comme ça se stabilise déjà, il n'y aura pas de problème.
Est-ce qu'il y aura des conséquences positives pour l'emploi dans la province orientale et particulièrement en Ituri?
Bon, la mine compte employer environ 700 personnes qui travailleront directement dans la mine. Et bien sûr, partout où il y a le développement d'une grande mine, il y a des sous-traitants qui seront là, et bien sûr qui vont aussi engager des gens. En faisant des estimations, nous pensons que le développement de la grande mine pourra engager directement ou indirectement à peu près 3000 personnes. La conséquence de ça, c'est le coût d'investissement. Le projet a un coût pratiquement de 450 millions de dollars, et je crois que ça sera le plus grand projet pour le développement de cette province et de la République démocratique du Congo.
Est-ce que les données d'aujourd'hui en ce qui concerne l'or, l'or aujourd'hui est considéré comme valeur refuge et n'a pas beaucoup succombé de la crise financière internationale. Est-ce que ça c'est une constante qui vous rassure?
Oui, bien sûr. En fait, le problème, c'est qu'il faut voir le dynamisme de l'or par rapport aux autres métaux. Comme vous savez, le prix du pétrole a chuté, le prix du cuivre, cobalt, zinc, platine, tous ces prix ont vraiment chuté. Tout le monde s'est réfugié dans l'or. Vous avez vu que le prix de l'or, au lieu de chuter, le prix de l'or ne fait qu'augmenter. Nous pensons que le prix de l'or aujourd'hui, qui est à 900 dollars par once, doit augmenter. En se réfugiant dans l'or, nous sommes bien placés pour l'avenir.
Une once d'or, 900 dollars, mais le coût de la production d'une once d'or avec Moto Gold Mine sera de combien?
L'étude de faisabilité telle que nous l'avons fait montre que le prix de production c'est au-dessus de 400 dollars once pour le moment.
Donc le bénéfice est double.
C'est intéressant de se retrouver dans l'or.
Peut-être pour terminer, un conseil que vous donneriez à d'autres entrepreneurs qui travaillent dans le secteur de l'or?
Bon, en fait, avant qu'on puisse clôturer, j'aimerais dire que nous avons fait plusieurs projets à caractère social. L'utilisation des écoles à Ouattara, à Durba cette année et à Sourou. Nous réhabilitons les fontaines d'eau. Nous sommes en train d'aménager la route. On a des obligations sociales que nous sommes en train de faire, bien que pour le moment nous ne produisons pas encore de l'or. À mes collègues ingénieurs, savoir que le Congo a besoin de leur expertise, c'est ça que je peux dire.
Alfred Lunga,
oui,
merci beaucoup de nous avoir parlé dans Écho d'économie.
Comment de vous remercier.
Merci beaucoup. L'émission a été préparée par Jocelyne Moussaou, Askin Zibiataero et Philippe Kazadi. À tous ceux-là qui nous ont suivis, nous vous rappelons, c'est déjà connu, vos réactions et suggestions à fco@radiookapi.net. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end à tous.